France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Roger Delmotte, l'un des très grands trompettistes du XXe siècle. Enfant du pays minier, il a rejoint dès 1951 l'orchestre de l'opéra comme trompette solo. Il a connu Gustave Charpentier, mais il a aussi accompagné Luis Mariano dans La Belle de Cadix et joué de la musique légère avec les trompettes de Paris, tout en assurant les créations de nombreux compositeurs contemporains. Une vie et un homme exceptionnels à découvrir dans un instant, juste le temps d'un premier morceau de trompette. Les enfants, écoutez bien.
Dis donc, tonton.
Oui.
Comment ça fait un pingouin pour de vrai?
Un pingouin, comme tu dis, ben ça fait... Voyons, comment ça fait un pingouin? Ça fait...
On dirait une trompette, ton pingouin, regarde.
Oh, oui, t'es malin.
Dis, tonton, hein? Ça voudrait aussi une trompette, moi.
Bon, ben, ton papa t'en achètera une.
Son papa lui achètera une jolie trompette. Son papa lui achètera une trompette en bois. Oui, son papa l'a dit, et sa maman aussi.
Oh. Ouais, elle m'en fiche, ma trompette.
Oui, oui, ben on va le savoir que t'as une trompette. Si tu continues, je vais te l'enlever, moi, tu sais. Hein? Oh, petit garçon, t'es-tu comme une mule? Que faudrait-il de plus pour qu'il ne le soit plus?
Et son papa lui achètera une jolie trompette. Son papa lui achètera une trompette en bois. Oui, son papa l'a dit, et sa maman aussi.
Oh. Elle m'en fait, j'ai ma trompette.
Tu sais que si tu continues, je vais te l'enlever, moi. Ce grand saut, là. Ah, quel saut. Allez, on continue.
Oh, petit garçon bavard, bavard comme une pille, que faut-il sans retard acheter au bazar? Son papa lui achètera une jolie trompette. Son papa lui achètera une trompette en bois. Oui, son papa l'a dit, et sa maman aussi.
Si tu insistes, moi je vais pas te le répéter deux fois, tu sais comment je suis, hein. Je te l'enlève ta trompette. T'es bien un grand sot, hein. J'ai jamais vu un sot comme ça dans la famille. Allez.
Oh, petit garçon muet, muet comme une carte, il faut un beau jouet pour le rendre plus gai. Et
hey, son papa le jettera, il le trompette. Son papa le jettera, il le trompette au roi. Son papa l'a dit.
Ça y est, allez, donne-moi ça.
Moi, je m'en fiche, la chanson est finie.
Oh, c'est malheureux de voir ça. Tu es bien...
Grand saut, grand saut.
Vous pouvez rire. C'est pas gentil. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot, celui-là. Allez, on finit.
Et quand tous ils auront leur petite trompette, tous les petits garçons à la fois chanteront.
Et oui, il jouait fort bien de la trompette, lui aussi, Bourvil, vous l'avez reconnu, dont on fête cette année le centenaire. Bourvil, ici, en 1953, avec les Pierrots parisiens dans ses chansons pour enfants sur une musique de Jomoutet.
France Musique, étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais je vous le disais, nous avons rendez-vous ce matin avec un merveilleux homme que j'ai eu le plaisir de rencontrer voici quelques mois, aux 90 ans de son ami, le chef d'orchestre Serge Baudot. Et puis nous avons commencé à parler. Et je peux vous dire que si quelqu'un incarne le mélange que j'aime de culture musicale, d'éclectisme, de raffinement et de bonne humeur, c'est bien lui, le grand trompettiste Roger Delmotte.
Thank you.
Bonjour Roger Delmotte.
Bonjour Benoît.
J'ai voulu dans cette émission de musique légère qu'on commence par ce groupe que peut-être certains de nos auditeurs connaissent, qui s'appelait les Trompettes de Paris. Là, c'était en 1972, on a reconnu Offenbach. Et les Trompettes de Paris, c'était un trio que vous avez formé donc avec Georges Jouvin et Roger Guérin, oui. Tous les deux disparus aujourd'hui.
Oui. Deux amis du conservatoire.
Ah oui.
Et... bon, on se voyait de temps en temps.
Vous aviez des carrières très différentes, puisque Jouvin faisait plutôt de la musique légère et Guérin du jazz.
Hein, oui.
Et vous, du classique.
Oui, mais nous avons toujours gardé des contacts.
Oui.
Roger Guérin, magnifique jazzman qui avait joué avec les plus grands jazzman de ce monde.
Oui.
Il connaissait particulièrement Gillespie, qui était à la mode, tout ça. Puis il a eu l'époque des caves avant.
Oui, bien sûr.
Oui. Georges Jouvin. Lui a fait un travail considérable pour faire connaître la trompette sur un plan populaire.
Voilà, c'est ça.
Et quelquefois, il me disait, quand nous avons enregistré, tu sais que ça m'ennuie de jouer trop avec toi parce que je change mon style et à ce moment-là, je ne vais plus vendre un disque. C'est assez cocasse. Mais
voilà, et vous avez fait donc... deux ou trois disques avec les Trompettes de Paris.
On en a fait deux complètement.
Voilà. Voilà. Qui ont eu beaucoup de succès.
Beaucoup de succès. Et puis, brusquement, c'est disparu. D'abord, c'est difficile de réunir des gens qui faisaient un travail tellement différent qu'il fallait faire autre chose.
Et qui faisaient les arrangements pour trois trompettes de tous ces morceaux.
Oui, ils ont été faits spécifiquement pour nous.
Voilà.
Et avec un accompagnement qui est un peu différent de ce qu'on aurait aimé.
Oui.
Parce que nous aurions souhaité qu'il y ait carrément un orchestre.
Un grand orchestre, oui.
Bon, et comme,
c'était trop cher.
Comme faisaient les Américains, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Parce que ce n'est pas avec, en faisant ces disques que nous avons gagné de l'argent. Au contraire, on en a déboursé. Mais on ne le regrette pas.
Hein. En tout cas, Roger Delmotte, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes venu nous voir ici, dans cette maison de Radio France. Vous habitez à Versailles, c'est pas très loin.
Non.
Mais vous êtes un homme merveilleux qui représente vraiment tellement bien aussi la richesse de cet instrument, parce que j'ai envie de dire, même si votre carrière, on va le voir, a été plutôt classique, contrairement à vos deux camarades, vous avez quand même vous-même tout fait. Et on a l'impression que c'est un peu quelque chose qui est propre aux trompettistes, de pouvoir passer voilà, de la musique populaire à la musique légère, à la musique beaucoup plus classique, à la musique contemporaine. Il y a eu cet éclectisme dans votre carrière, je ne sais pas si ça tient aussi à votre personnalité.
Mais c'est-à-dire que, étant originaire du Nord, oui. La musique... que nous écoutions et que j'écoutais étant enfant, c'était toujours une musique plutôt assez populaire, je veux dire par là, populaire de qualité, mais de belles opérettes, chantées par de très grands chanteurs, quelquefois.
Ouais.
C'était ce plaisir d'une musique chatoyante, où on développait un peu moins dans l'éducation la rigueur du travail de base que doit être Jean-Sébastien Bach. Ça, c'est indispensable.
Hein. Mais d'une façon générale, on a l'impression, je dirais de Maurice André à Guy Touvron, que tous vos confrères ont aimé aller faire aussi de la musique légère. Que c'est le propre. On ne voit pas ça chez les violoncellistes ou chez les pianistes, si vous voulez, à ce point-là.
Non, et il y a aussi, je ne veux pas dire ce petit phénomène, mais en fait, il y a pourquoi tellement de jeunes dans certains pays ouvriers jouent des instruments, donc toute la famille des cuivres. D'abord, les études coûte beaucoup plus cher et demande beaucoup plus de temps pour le violon, le piano et le chant classique, tandis que la trompette, le trombone, tous ces instruments-là, il y avait des fanfares où on apprenait avec des amateurs avertis qui étaient des semi-professionnels, on peut dire, mais qui ne faisaient que ça qu'en dehors de leur travail principal pour gagner leur vie. Et on avait la joie de jouer pour nous.
Voilà, alors ça reste peut-être après, quand on évolue dans la carrière, ce goût d'aller jouer pour le plaisir de la musique légère.
Voilà. Pour moi, ça m'a marqué. Je pense que pour Maurice, comme pour Guy Touvron, c'est pareil.
Ouais.
Ça dit la même chose.
Alors, on va revenir sur tout ça beaucoup plus en détail, puisqu'on a la joie d'être avec vous aujourd'hui, Roger Delmotte. Et je vous propose justement de remonter le temps. J'ai choisi une petite chanson parmi celles que vous écoutiez peut-être quand vous étiez enfant dans le nord de la France.
Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. comme des oiseaux dans les buissons. On s'embrassait à chaque instant quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, et puis le soir je me souviens, sous les guinguettes, comme on chantait, le cœur bercé de tout le frein. J'étais grisé de mon bonheur, grisé d'air pur, et on rentrait les bras chargés de jolies fleurs, comme je t'aimais, comme on s'aimait. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants, ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on se pécotait à chaque instant, quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, mais ce beau temps est bien passé. Sans un baiser, d'un air distrait, tu me dis adieu, toujours pressé. Alors je vis du souvenir des soirs d'été où l'on faisait des rêves fous pour l'avenir, comme je t'aimais, comme on s'aimait. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, comme il est loin ce joli temps où je chantais comme un pinson. J'ignorais tout, les trahisons, la jalousie, la voix qui ment. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de...
Rédacteur dans cette jolie chanson enregistrée en 1934, alors Roger Delmotte, que vous aviez 9 ans, je ne sais pas si vous l'entendiez à la radio et si ça vous faisait rêver de la banlieue parisienne.
Oui, de ce qu'était autre chose que le coin d'usine de textile et de la difficulté des ouvriers.
Vous étiez d'une famille d'ouvriers, hein, vos parents étaient ouvriers.
Oui, absolument. C'était quelle année ?
34.
Le Front populaire approchait.
Le Front populaire approchait.
Et tout ce que l'on a pu voir comme modification, je ne veux pas dire révolution, mais c'était incroyable. Déjà, la difficulté, les grèves qui se passaient partout.
Et ces chansons, alors, vous les entendiez à la radio ?
Oui, mais j'avais un poste à Galène.
Oui. Alors, ça se passait dans un petit village qui s'appelle Bézieux. Hein.
Oui.
Et votre père, donc, était ouvrier, mais aussi musicien amateur. Hein.
Oui, musicien amateur, oui, il jouait du tuba. Il n'y avait pas de télévision, la radio était difficile à atteindre. Mmh. Et la sortie, pour des gens qui ne tenaient pas, est toujours dans ce qu'on appelait les estaminets,
ouais.
Dans le Nord et en Belgique. Voilà, c'est comme c'est juste la frontière. Eh bien, c'était plutôt de faire de la musique avec d'autres. Et chaque village, chaque petite ville avait au moins une fanfare. Et si la ville était un peu plus importante, il y avait un petit orchestre symphonique.
Et vous avez commencé à la petite flûte,
hein,
parce que quand
flûte.
On est tout petit, on ne joue pas de la trompette, évidemment.
Exactement. Et c'est un jeune, je crois qu'il devait avoir peut-être 25 ans. Pour moi, c'était encore un jeune. Et qui m'a enseigné.
Alors, les premières années se sont déroulées à Bézieux, donc. Et oui. Puis vos parents, après, sont partis à Roubaix.
À Roubaix, c'est ça.
Et c'est là que vous êtes passé de la petite flûte
au
bugle.
Oui, au bugle. Voilà. Il n'y avait pas d'instrument à hanche, c'est-à-dire clarinette, saxophone, flûte. Simplement, ce qu'on appelle maintenant les grands ensembles de cuivre.
Voilà, trompette, trombone.
Oui, c'est ça. Et le hasard a fait qu'un homme qui avait fait des études sérieuses m'a mis vraiment le pied à l'étrier et il m'a dit assez rapidement, mais il faut que tu ailles au conservatoire.
Vous étiez doué, donc, apparemment.
J'étais doué,
voilà.
Oui. Mais on ne s'en rend pas compte.
Oui, bien sûr.
On a la chance d'être avec des gens qui transmettent leur passion, déjà.
J'ai lu que tout jeune, dans ce milieu des fanfares, vous, vous répétiez ou vous travailliez votre trompette en faisant de la bicyclette sur les pavés du Nord, ce qui ne doit pas être facile, mais que c'était très bon pour le souffle.
Quand même pas. Travailler quand même pas. Je faisais donc partie de cette société qui s'appelait la Fanfare Cycliste du Nord Touriste.
C'est pas mal.
Voilà, avec le bugle qui était attaché avec une courroie, parce que sur les pavés du Nord, il fallait conduire le guidon d'une main et essayer de jouer avec l'autre. Et puis, s'il y avait trop de pavés, vite je reposais.
Ouais, quand même, hein.
L'instrument contre moi, mais c'était une expérience.
En tout cas, donc, vous êtes entré au conservatoire de Roubaix,
oui.
Avec un bon professeur.
Très bon.
Et puis, finalement, comme il semblait que vous étiez vraiment doué pour l'instrument et que tout ça vous poussait vers le grand conservatoire à Paris, votre départ a été juste un peu retardé parce que c'était la guerre, d'une certaine façon.
Oui, il a fallu attendre la fin de la guerre. Quand même, mes études, je les ai suivies à Roubaix. Et avec mon ami de toujours, Georges Delerue,
oui.
Nous étions sur les mêmes bancs de solfège.
Incroyable.
Lui, il se destinait, parce qu'il faisait du piano et de la clarinette lui-même. Mais en fait, il voyait autre chose déjà. Parce que la première œuvre, par exemple, qu'il a pu écrire, et à laquelle j'ai participé, c'était un petit chœur pour jouer dans une église. Lui, il était à l'orgue, et il avait écrit la partie d'ensemble pour les quelques voix, et il avait ajouté une trompette.
Avec vous.
Avec moi.
Quand vous avez enregistré des œuvres pour trompette et orgue, beaucoup plus tard avec lui, c'était que la suite de vos...
C'était une suite de notre connaissance, alors qu'on avait 12 ou 13 ans.
Vous avez dit que vous aviez quasiment pris le premier train à la Libération... Pour filer à Paris et justement entrer au conservatoire.
Ah oui, j'étais parmi les premiers qui repartaient du Nord.
Ça prenait du temps, hein, pour aller à Paris en train à ce moment-là.
Oui, pour descendre de Lille jusqu'à Paris. Parce qu'il y a, la guerre n'était pas terminée en Alsace, en Allemagne. Et il y avait encore les trains de munitions qui descendaient. Alors ils avaient priorité, bien sûr.
Ouais.
Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais bien content. Mais j'étais parti le matin, je crois, à 8 heures pour arriver à 7 ou 8 heures le soir.
Voilà.
Oui.
Et vous êtes entré au conservatoire, et là où vous avez eu un très grand professeur, hein, il faut
voilà.
Le dire, Roger Eugène Delmotte.
Fauveau. Oui.
Eugène Fauveau.
Ça, je veux dire que j'étais tout de suite avec une exigence que j'avais avec mon professeur dans le Nord. Mais on a toujours, à notre professeur, une exigence différente.
Oui.
C'est là où on peut évoluer.
Bien sûr. Et vous êtes sorti donc avec votre premier prix.
Oui.
Voilà. Et vous êtes entré très vite dans un orchestre important à l'époque. On va y revenir tout de suite, mais je propose qu'on en écoute quelques mesures pour retrouver votre jeune trompette encore de l'époque dans l'histoire du soldat de Stravinsky. Ici donc sous la direction de Fernand Oubradous avec vous-même à la trompette.
Entre danger et d'énésie, un soldat qui rentre chez lui. Quinze jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver. Parce qu'il a beaucoup marché.
« L'histoire du soldat enregistrée alors quelques années plus tard, en 1952, sous la direction de Fernand Houbradous, avec son ensemble instrumental, et donc à la trompette, Roger Delmotte, parce que il faut dire, Roger Delmotte, que donc ayant eu votre premier prix au conservatoire en 1946, vous êtes assez vite entré ensuite, en 49 je crois, dans l'orchestre de Fernand Houbradous. Il faut rappeler l'importance qu'il avait dans la vie musicale à l'époque, Houbradous. Hein.
Oui, eh bien, il dirigeait son ensemble parallèlement avec les concerts Lamoureux, Colonne, Pas de Loup et la Société des Concerts.
Oui, c'est ça.
Bon, et c'était à la même heure le dimanche dans Paris. Lui, c'était à Gaveau, les autres, c'était Pleyel, à plusieurs endroits différents. Et je dois dire qu'on a fait un travail fantastique chez Houbradous parce qu'il a eu la sagesse de faire des programmes. Bon, à l'époque, on jouait beaucoup Mozart. On redécouvrait Mozart et puis c'était fréquent. Mais s'il mettait un Mozart, quel que soit le soliste, il mettait une œuvre contemporaine aussi au programme.
Au programme, ah oui.
Et cela ne se faisait pas tellement dans les autres associations. Alors il y avait une clientèle à Gaveau qui était intéressée par ce système de travail.
Et lui-même qui était bassoniste avait aussi ce goût pour les instruments avant, évidemment.
Absolument. Il avait pris la succession d'une association qui s'appelait l'Association des instruments à vent de Paris, je crois.
Voilà. Et vous gardez un bon souvenir de ce passage chez Houbradous?
Oui, parce que j'ai fait pas mal de premières auditions avec lui.
Oui, c'est ça.
Voilà. Par exemple, le second Jolivet, c'est avec lui. Stradella, Torelli, enfin, pas mal de pièces. J'ai découvert beaucoup de littérature grâce à lui. Et ça me plaisait tellement que je n'étais plus au conservatoire depuis un moment, que je m'étais inscrit quand même dans sa classe d'instruments avant pour suivre ce qu'il faisait apprendre aux élèves des classes différentes d'instruments avant du conservatoire auxquelles ils n'étaient pas intéressés, ces élèves.
Ah oui.
Et j'étais le trompettiste même donc du conservatoire pour ça.
Houbradous, donc, c'est juste après la guerre, si on peut dire. Mais il faut dire, Roger Delmotte, que dans ces mêmes années, avant d'entrer à l'opéra, vous avez un peu tout fait hein, dans le métier.
Oui.
Et notamment, pas mal, ça nous intéresse ici, pas mal de musique légère.
Oh.
Vous avez, par exemple, fait la tournée de la Belle de Cadix avec Luis Mariano.
Exactement, oui. 3 mois. Mais Luis Mariano n'était pas pour chaque spectacle avec nous, parce que nous changions de ville presque chaque jour. Et
ah oui, il venait que dans les grandes villes, lui.
Il jouait, il ne chantait que dans les grandes villes, c'est
ah oui.
Exact. Parce que dans les grandes villes, on faisait 3, 4, 5 spectacles à la file.
Bon, oui, oui.
Bon mais comme c'était la vedette qui était payée un peu plus que la doublure qu'il y avait pour les petites villes. Mais malgré tout, j'ai connu la vie de, je vais dire, de saltimbanque, peut-être,
un peu,
mais
oui.
des tréteaux, je ne sais pas, c'était merveilleux, parce que les choristes étaient des gens qui installaient les décors, ils s'occupaient de l'électricité, enfin, et c'était toute la troupe qui participait.
Et Mariano, quand il arrivait, c'était la star.
Ah, oui, c'était la star, mais d'une gentillesse, alors il faisait partie de la troupe.
Ah oui, vraiment. Oui.
Ah, c'était un être absolument merveilleux, d'une gentillesse.
Et dans ce besoin alors de faire des cachets alors de tout jeune musicien, Roger Delmotte, vous avez aussi à cette époque-là travaillé à l'Européen.
Ah oui.
Qui était un des
C'était un peu avant.
Oui.
À l'Européen, j'ai fait un certain temps.
Qui était vraiment un haut lieu du tour de chant à Paris. Hein,
ah oui.
Avec musical,
j'ai eu la chance d'entendre une femme comme Eliane Sélis.
Oui, tiens.
Qui était une voix d'or.
Écoutez, oui. Une seconde.
Ah.
Thank you. Un petit peu juste pour vous faire plaisir, Roger Delmotte, c'était Eliane Célis, là, dans Au soleil du Mexique de Maurice Yvain, qu'elle a enregistré en 10 d'ailleurs, mais qu'elle n'a jamais joué sur scène.
Mais quelle émotion!
Ah.
Je la vois encore.
Sur la scène de l'Européen. Donc.
Sur la scène de l'Européen. Le rideau s'ouvrait pour elle au moment où elle était déjà installée, c'est-à-dire comme elle avait des grosses difficultés pour marcher.
Ah oui?
Oui.
C'est pour ça qu'elle n'a pas fait d'opérette en scène.
Oui. Elle était donc assise sur le piano à queue et avec une longue robe crinoline, tout cela. Et c'était une poupée,
ouais,
à ce moment-là. Et cette voix qui était... Moi, je suis encore, excusez-moi, ça me trouble.
Ça marchait comment, l'orchestre de l'Européen? Vous étiez donc dans la fosse?
Oui, nous étions une dizaine de musiciens,
ouais,
avec un chef qui connaissait des gens de métier. J'ai appris drôlement mon métier, qui m'a été très utile, tant pour l'opéra, que pour tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière.
Alors, vous avez donc accompagné Eliane Célis, on pourrait citer Roger Nicolas aussi.
Suzy Delair.
De la maison, notre chère Suzy Delair, qu'on salue.
Oui, c'est ça. Et quand il y avait un autre chanteur, il fallait que nous fassions attention, parce qu'il n'était pas là que pour une soirée, il était là pour une série, 8 jours, 15 jours.
Ouais.
Et puis, on ne savait pas dans quelle tonalité il allait chanter.
Ah.
Alors, le chef attendez que tout le monde soit bien installé en scène, tout ça. Il savait à ce moment-là si le chanteur avait des difficultés et il nous faisait signe avec la main. Ça signifiait
incroyable.
Un demi-ton plus bas ou un ton plus haut.
Et directement, il fallait que tout le monde...
Et immédiatement, nous transposions pour la possibilité du chanteur.
Ça, c'est du métier, alors.
J'ai appris un métier exceptionnel.
Alors, je voudrais, avant qu'on revienne à tout ce que vous avez fait vous-même comme trompettiste, Roger Delmotte, qu'on évoque un autre souvenir, parce que j'avoue que quand on a parlé il y a quelques temps, ça m'a sidéré le fait que vous avez très bien connu à la fin de sa vie Gustave Charpentier, le compositeur de Louise, grande figure de la musique presque de la fin du 19e siècle, mais que vous avez connu dans sa demeure de la Butte Montmartre, où il vivait encore,
oui,
après la guerre et jusqu'à sa mort. Comment vous l'avez rencontré?
Par la secrétaire de Charpentier, mais j'avais aussi ma femme qui l'avait connue pendant la guerre, où il était à Biarritz, et elle avait pu lui chanter son air de Louise.
Ah oui.
Et il avait été enthousiasmé, et donc elle avait gardé des contacts avec la secrétaire. Et la secrétaire me dit, vous voudriez rencontrer le maître? Ben, vous comprenez, avec le plus grand plaisir, pour moi, ce serait un tel honneur. Et je suis allé, et là, j'ai eu la possibilité de bavarder, et je crois que j'avais eu mon prix de Genève, il me semble bien. Je crois que c'est en 50.
Le grand prix de trompette de Genève, on le redira après, qui était très important dans votre carrière.
J'avais eu une récompense, et c'est comme ça qu'il m'a dit, mais on va donner le couronnement de la muse, et je voudrais que vous fassiez l'une des deux trompettes principales qui doivent intervenir. Alors, j'ai eu le plus grand plaisir, c'était avec la musique de la garde républicaine.
Il faut rappeler que le couronnement de la muse, c'est une œuvre qui est liée à la butte Montmartre et
absolument.
Au peuple de la butte Montmartre, écrite par Charpentier, dont il reprend un épisode d'ailleurs dans Louise. Hein, voilà.
Exactement. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, je suis allé et j'ai joué la partie. Mais il m'a dit, mais écoute, il faut que tu joues un peu. C'est la fille qui chante. Hein. Alors, elle est amoureuse, prouve-le. Et puis là, il m'a demandé d'aller voir Louise à l'Opéra Comique.
Pour lui, le compositeur, il était trop vieux, il ne voulait pas y aller, mais il voulait savoir comment ça se passait.
Plus, parce qu'il ne se dérangeait plus.
Hein. Oui.
Et tu viendras après, et puis tu me raconteras ce que tu as pensé. Bon, alors, j'y suis allé. Jean-Louise, et après, j'étais reçu, c'était donc minuit, hein, et je me suis trouvé dans cette petite chambre que j'avais déjà vue. Déjà.
C'est vraiment le vrai personnage de Montmartre,
ah,
Charpentier.
Oui, voilà.
C'est vrai.
Et puis il m'a expliqué, parce qu'il a parlé un peu des cris de Paris, de tout cela, il m'a dit, quand je pense que j'entendais ici le gardien du square qui est juste en face, et je l'entendais quand il ouvrait les grilles ou quand il les fermait, parce qu'il donnait des coups de clairon. Et ça, il disait, pour moi, c'est un souvenir, c'était la vie ici.
Qu'il avait inspiré dans l'écriture
oui,
de cette œuvre.
Et là, quand il m'a reçu, Ben, c'est un monsieur qui était sur un lit de camp, pratiquement, tout simple, très simple. Et à côté, il avait un petit réchaud où il faisait chauffer son lait. Mais il avait dit à sa femme de ménage, la femme qui s'occupait de lui, « Surtout, tu achètes une veuve Cliquot, je veux que tu lui offres du champagne. » La veuve Cliquot, hein, ne te trompe pas.
Alors justement, on va retrouver, Roger Delmotte, la voix de Gustave Charpentier. Je suis très heureux qu'on ait conservé à l'INA, parce que je ne savais même pas que ça existait.
Étonnant.
La voix de Gustave Charpentier qui évoque ses débuts. Et puis tout de suite après, justement, la scène du couronnement de la muse, extraite de son opéra Louise.
Mon père était boulanger à Dieu, où je suis né. Il travaillait la nuit, dormait le matin et faisait de la musique chaque après-midi. Car il avait la passion de la musique. Il jouait du violon et de la flûte. C'est mon père qui m'enseigna les premiers éléments du solfège. Il voulut faire de moi un musicien, sans doute pour réaliser le rêve qu'il avait vainement formé pour lui-même.
Louise, la scène du couronnement de la muse, donc enregistrée ici sous la direction de Georges Prêtre, un petit gars du Nord comme vous, Roger Delmotte.
Oui, à quelques kilomètres,
c'est vrai.
Lui aussi issu de famille simple.
Et trompettiste aussi à 16 ans.
Mais oui, trompettiste, excellent trompettiste, et où il y a eu dans la même petite ville des gens comme Pierre Lot, Allard, qui étaient des bassonistes, des musiciens remarquables, mais et prêtres, assez rapidement s'est destiné, lui, à aller vers la direction.
Et vous l'avez retrouvé, bien sûr, donc à l'Opéra de Paris.
Bien sûr.
On ne peut pas malheureusement tout raconter, mais il faut bien préciser qu'entre-temps, donc après être rentré à l'Orchestre d'Oubradous, vous avez obtenu un prix très important, qui était un prix nouveau. Vous avez été le premier lauréat du grand concours de trompette de Genève en 1950. Hein.
Oui, ce n'était pas un prix nouveau. C'est un prix qui était resté latent pendant la guerre. Et dès la reprise, il y a eu une épreuve. Il n'y a pas eu de premier prix. Et en 50, c'était la première fois que le premier prix était décerné à un trompettiste.
Voilà, et c'était vous.
Et c'était moi.
Ça vous a lancé, on peut dire.
Ah, je dois dire qu'il y a eu une publicité sur mon nom en Suisse, en France. Je me suis retrouvé immédiatement demandé par le régisseur de la radio même,
ah oui,
française.
Vrai.
Alors que je m'étais présenté plusieurs fois, bien non, on ne vous connaît pas, très, très bien.
Voilà. Et alors là, les choses sont allées vite parce que au même moment, il y a eu ce prix de Genève. Oui. Vous êtes entré à l'Opéra de Paris.
Un an après, un concours très difficile avec Jolivet.
Voilà, alors... Concerto. On en reparlera de l'opéra parce que vous y avez passé la plus grande partie de votre carrière, évidemment.
Et de ma vie.
Et de votre vie.
Oui.
Vous avez également, au même moment, commencé à enseigner au Conservatoire de Versailles, ce qui a duré très longtemps aussi par la suite. Mais à l'époque, vous m'avez dit que les élèves étaient quelquefois plus âgés que vous.
Oui, oui. Et comme j'avais pas mal de militaires, je me trouvais un peu affaibli entre leur âge, mon âge et mon inexpérience. Mais je n'ai pas voulu baisser les bras. Et puis très rapidement, je me suis mis dans le coup pour enseigner.
Voilà, et les expériences se sont multipliées. Oh, j'évoque encore deux petites rencontres rapidement. Première, c'est dans ces années d'après-guerre, le chanteur Urban, le créateur de Fifi, que vous avez accompagné au Bouffe Parisien.
Oh oui, oui. On allait assez fréquemment dans des théâtres différents dans Paris, ouais. Parce qu'il y avait du travail à pas mal d'endroits. Et quand quelqu'un était malade, on remplaçait. Puis là, j'ai dû remplacer pendant 8 jours, 15 jours peut-être. Comme j'allais aussi à la Gaîté Lyrique, ouais. Avec Germaine Roger.
Ouais.
Oui, et certaines opérettes qu'il fallait accompagner. Il y avait beaucoup de travail. Et c'était toujours passionnant.
Et les musiciens de l'Opéra de Paris, tout le monde se les arrachait ensuite aussi.
Mais c'est-à-dire que par nos connaissances professionnelles, on pouvait mettre n'importe quoi sous les yeux, on pouvait jouer tout de suite.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça l'avantage.
Vous avez également connu Henri Bussert.
Oui, oui, je l'ai rencontré plusieurs fois.
Grande figure aussi du début du XXe siècle, orchestrateur de la petite suite de Debussy. C'était un personnage, hein, mort presque centenaire.
C'était un homme étonnant. Je ne peux pas l'imiter.
Il avait une petite voix perchée comme ça.
Comme ça, oui. Et j'ai même participé, le Faust qu'il a dirigé, il avait presque 100 ans, à l'opéra. Et croyez-moi que l'orchestre margeait encore. Hein. Oh là là, parce qu'il avait encore de l'énergie.
Ce qui est merveilleux, en tout cas, Roger Delmotte, c'est qu'on voit la diversité de vos talents, de vos expériences. Il y en a bien d'autres, d'ailleurs, auxquels on va revenir ensuite. Mais finalement, il y a eu l'opéra, la musique légère. Et vous avez aussi, très tôt, eu un grand intérêt pour les compositeurs contemporains. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, et vous n'avez jamais cessé de jouer leurs œuvres, d'en créer, d'en donner, d'en enregistrer. À tel point, d'ailleurs, que la première fois, moi, que je vous ai entendu, j'étais tout jeune, c'était sur un vieux disque que j'avais trouvé chez mes grands-parents avec deux concertos de Jolivet. Et justement, il y avait ce merveilleux petit concerto pour trompette joué par Roger Delmotte. J'avais seulement 15 ans et c'est comme ça que je vous ai entendu pour la première fois.
Thank you.
Le deuxième concerto pour trompette d'André Jolivet, ici dirigé par le compositeur, avec vous-même Roger Delmotte. Et on le sent, cette volonté qu'avait Jolivet d'aller regarder un petit peu du côté du jazz hein, dans cette œuvre.
Absolument. Et quand je lui disais que c'était difficile, il m'a dit « mais Armstrong le fait bien
». Ah oui.
Mais j'ai dit « mais Armstrong, il utilise un autre langage que de ce que nous utilisons dans le classique ». Et je ne serais pas capable de faire ce que fait Armstrong, mais lui aurait certainement des difficultés de jouer votre concerto.
Il avait rencontré Armstrong d'ailleurs, André Jolivet. Hein.
Oui, oui, il l'aurait rencontré quand il était allé aux États-Unis.
Oui, oui, c'est ça.
Oui, parce qu'il a voulu entendre un peu ce qui se passait.
Et il espérait que le public allait se lever comme dans des concerts de jazz.
Ah, il souhaitait qu'on casse les fauteuils comme à l'Olympia.
Voilà. Bon, ça n'a pas vraiment donné ça, mais en tout cas, c'est un bel enregistrement que je réécoute souvent. Et qui montre donc, oui, vraiment cet engagement que vous avez eu pour la musique des compositeurs de votre époque. Hein. On pourrait citer Roland Manuel, Bondon, Casteret, Jean Français, Jean Rivier, beaucoup d'autres, Maurice Ohana, son concerto pour trompette. Vous n'avez pas cessé de jouer tous ces musiciens. Est-ce que la radio, d'ailleurs, a joué un rôle dans ce travail.
La radio faisait de gros efforts pour faire connaître quand même des jeunes compositeurs.
Oui, oui.
Qui écrivait, mais...
Jean-Michel Defaille, par exemple, dont vous avez joué les premières œuvres ici même, à la radio.
Oui, beaucoup de jeunes trompettistes qui jouaient très bien, eh bien, ne souhaitaient pas prendre du temps sur ce qu'ils gagnaient pour des enregistrements à côté, pour des travaux de studio, et pour mettre au point une œuvre contemporaine.
Ah, oui.
À quoi ça va me servir? Je vais le jouer une fois, et puis...
Et vous, oui.
Mais oui, parce que je voulais connaître des choses nouvelles.
Oui.
Voilà, c'est une question de passion, de ne pas rester avec simplement le traditionnel. J'ai accepté aussi d'être pendant un temps avec Boulez, parce que j'ai voulu
connaître. C'est ça, vous avez été chez Renaud Barrault d'abord avec Boulez, qui était encore au percussion,
au domaine musical, au Marigny.
Oui, c'est ça, oui.
Et au Petit Marigny même. Et oui. Mais non, mais c'était...
Vous avez enregistré Octandre sous la direction de Boulez, de Varèse.
Oui, on a fait plusieurs œuvres. Oui, un certain nombre d'œuvres qui n'étaient pas faciles et des œuvres très difficiles. Octandre était peu joué.
Oui.
Il a fallu que Boulez ressorte ces œuvres-là. Mais on participait à quelque chose, une recherche.
Mais vous avez en tout cas cet éclectisme qui faisait que vous pouviez jouer à la fois du Varèse avec Boulez et puis du Jean Rivier, alors qu'il est vraiment aux antipodes.
Absolument, absolument. Mais c'est la différence des deux hommes, d'ailleurs. Ils étaient aux antipodes. Et Rivier était un homme...
C'était qui, Jean Rivier? On l'a complètement oublié aujourd'hui.
C'est un peu comme Jean Français.
Oui.
Ce sont des gens qui étaient calmes, qui étaient traditionnalistes, conservateurs, peut-être...
Dans une certaine tradition française, en tout cas.
La bonne musique française. Mais il ne faisait pas partie de certains clochers.
Voilà. Vous avez créé d'ailleurs à Aix-en-Provence le concerto pour trompette et saxophone de Jean Rivier avec le grand Marcel Muhl au saxophone.
Quel grand maître.
Oui.
Oh que oui.
Je vous propose d'écouter le premier mouvement de ce concerto.
Thank you.
Le concerto pour trompette et saxophone de Jean Rivier. Voilà, une œuvre bien oubliée. Là, c'était le premier mouvement avec vous-même, Roger Delmotte, Daniel Defayet au saxophone, dans la partie créée donc par Marcel Muhl.
Oui.
Et brillamment reprise ici même.
Un grand honneur d'avoir joué avec Marcel Muhl. Voilà. C'était vraiment un musicien merveilleux.
Roger Delmotte, on va revenir un petit peu au chef d'orchestre, parce qu'on a dit que vous êtes entré à l'opéra, vous avez vu défiler beaucoup de grands artistes, au pupitre évidemment, mais même aussi en dehors de l'opéra, vous avez beaucoup enregistré de disques dans toute cette période, y compris des concertos classiques, des concertos baroques. Vous avez été un des premiers d'ailleurs à enregistrer ces concertos pour trompette, hein, ça ne se faisait pas tellement avant.
Il y avait très peu.
Oui.
Bon, j'avais des collègues qui ne tenaient pas trop à prendre la responsabilité de se présenter devant le public.
Oui.
Bon, j'ai eu la chance avec Pierre de Vevey, Bernard Val, l'ensemble de Versailles, avec Obrados, entre autres, tout ça, de faire ça. Je mouillais la chemise, comme on dit. Mais je pense que c'était intéressant pour moi et peut-être pour faire connaître aussi une musique qui était très peu connue et jouée.
Voilà, alors ça allait de Vivaldi à Haydn, en passant par beaucoup d'autres.
Et chose étonnante, c'est que parallèlement à quelques mois ou un an de différence, il y a eu des enregistrements faits par Roger Voisin aux États-Unis,
oui.
Excellents, et en même temps Doc Schizer en Russie.
Ah voilà, donc c'est la trompette a émergé tout d'un coup au disque.
Étrange. Bon.
Et dans ces enregistrements, notamment, vous avez travaillé avec une très grande figure de la musique, c'était Hermann Scherchen.
Oui, ça c'était pour la musique contemporaine. Alors,
mais aussi Haydn.
Mais, parce qu'on le considérait plus comme...
L'avant-garde.
Avant-garde.
Oui.
Et il dirigeait du classique, puisque j'ai fait un disque complètement avec lui de Handel, de Haydn, plusieurs choses, avec l'Orchestre de Vienne. Et je dois dire que c'était...
Ça manquait de la souplesse.
J'allais dire, la souplesse entre nous n'était pas de rigueur. Je respectais, parce que c'est un grand monsieur. Et les musiciens de l'orchestre de Vienne étaient venus me féliciter de lui avoir tenu tête pour un certain phrasé, je crois, qu'il tenait absolument.
Et alors donc, parallèlement à toutes ces expériences, vous avez évidemment dans la fosse de l'opéra, alors tout accompagné, hein, tout le répertoire qui se donnait en lyrique et en ballet.
Oui.
Mais pendant... des années, des années, des années. Donc, vous avez connu tous les chanteurs, tous les chefs. Vous avez été particulièrement marqué par quelques-uns d'entre eux, comme Knappert Busch, par exemple.
Ah,
dans...
Knappert Busch pour Wagner.
Wagner.
C'est un souvenir
ouais.
Incroyable. Les collègues que j'ai eus pendant des années, qui vivaient, certes, il y en a peu qui vivent encore, et qui ont eu la chance de participer à la tétralogie, le crépuscule des dieux,
ouais.
Comme il dirigeait la marche funèbre de Siegfried. C'était incroyable. Au moment où il y a cette montée, ça monte, ça gonfle, ça gonfle, il se levait de sa chaise, et puis ça tombait comme... Mais c'était incroyable. Et j'avais rencontré quelques jours plus tard Aldo Ciccolini, magnifique pianiste, qui était venu au spectacle, qui m'a dit, mais j'ai pas compris, je me suis trouvé debout, levé, transporté. Et ça, c'était prodigieux. C'était exceptionnel. Mais on en a eu d'autres qui étaient de grande qualité.
Clutens,
la musique française avec lui. Pas seulement la musique française, en fait. Et Böhm, bien sûr. Santi, qui
était Nello Santi pour
génial
le répertoire italien.
Pour toute la musique italienne. Et puis, quand les ballets du Bolshoï étaient venus, c'était vers 55-56, je crois, il y avait un nommé Liuri Fayer, qui était presque aveugle, qui dirigeait Prokofiev, le Roméo de Prokofiev, quelque chose où nous restions. Enfin, ce sont des moments exceptionnels. Voilà.
Les chefs, c'est une chose. Et puis, alors, les œuvres. Alors, quand je vous ai demandé, parmi les œuvres, une de celles que vous trouvez peut-être la plus méconnue, vous m'avez tout de suite spontanément cité Thaïs.
Ah oui, une œuvre française, ah oui, parce que c'est une grande œuvre.
Et on va l'écouter là par quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques mois, que vous avez aussi beaucoup accompagné au Palais Garnier, c'est Géori Bouet.
Géori Bouet, ah bah oui, elle était superbe.
Je suis pas...
Géory Bouet, tel qu'on pouvait l'entendre donc dans Thaïs à l'Opéra de Paris, avec vous-même dans la fosse, Roger Delmotte, où vous avez passé tant et tant de temps. Vous vous sentiez bien dans cette maison de l'Opéra, dans ce bâtiment, en fait, vous aviez vos habitudes, vous étiez chez vous, vous étiez le Palais Garnier.
C'était mythique, c'était un rêve d'abord. Ouais, ouais. L'Opéra, entrer à l'Opéra, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais là, je vois encore Géory Bouet dans Thaïs, c'était la femme dans toute sa splendeur,
ouais.
Et la voix dans toute sa splendeur. Ce serait peut-être autre chose de nos jours, mais il y a 60 ans de cela. Mais c'était envoûtant.
Ouais. Voilà. Ouais. Vous êtes resté à l'Opéra de Paris, Roger Delmotte, jusqu'en 1985. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu la grande réforme Liberman dans les années 60, vous qui étiez musicien d'orchestre? Ça a été plutôt un mieux ou un moins bien ou un autrement?
Une organisation différente, des spectacles de super qualité,
ouais,
qui ont apporté un plus très conséquent à l'opéra. Des maisons comme l'Opéra de Paris ou tous les opéras du monde, s'il n'y a pas des crédits suffisants pour pouvoir engager les grandes vedettes et faire de belles mises en scène, eh bien c'est difficile qu'il y ait un public suivi. Et là, je dois dire que la période Liberman a été une période faste.
Donc vous ne m'avez pas trop regretté le changement,
personnellement,
la fin de la troupe, malgré tout aussi.
Ah, là, ce que nous avons regretté, c'est que, et encore de nos jours, tout le monde regrette qu'il n'y ait pas une troupe, parce que quand un chanteur est malade, eh bien, le spectacle est supprimé.
Oui, c'est ça,
c'est
oui.
La vedette, c'est dommage.
Oui.
Tandis qu'avant, il y avait quelqu'un qui était prêt.
Un autre domaine, alors, on ne va pas arriver à tout passer en revue ce matin, mais quand même, parlons de celui-là, Roger Delmotte, vous avez été aussi un peu précurseur, c'est le répertoire pour trompette et orgue avec votre ami Cochereau.
Oui.
Oui.
Pour moi, 30 ans.
Ouais.
De bonheur,
ouais.
De bonheur, travailler avec un être qui était un génie de l'improvisation.
Vous alliez répéter avec lui à Notre-Dame?
Oui,
oui.
Fréquemment. C'est merveilleux, on ne peut pas expliquer que quand on s'entend comme deux frères, mais pas deux frères ennemis, deux frères qui s'aiment pour faire ce qu'ils font, qui ont la même passion. Ils parlent le même langage surtout,
ouais.
Parce que je me suis trouvé certains soirs de concert, j'étais un peu fatigué. Eh bien, il le sentait tout de suite. Il n'aurait pas accéléré, il n'aurait pas joué plus
fort.
Oui. C'était une chose. Bon, je le sentais lui aussi, quelquefois nerveux. Il accélérait. Alors, je me disais, mon vieux, fais attention, il faut que tu tiennes avec lui. Non, c'était une complicité totale, absolue. Absolue.
Voilà, vous avez donc arpenté la France tous les deux.
Oui.
Et puis, vous avez même enregistré et créé alors une œuvre. Alors, c'est là qu'on retrouve votre ami d'enfance, Georges Delerue.
Ah!
Qui a écrit pour vous cette suite pour trompette et orgue.
Exact. Georges, un jour, me dit, écoute, je suis en train de repenser à quelque chose. Parce qu'il était très ami aussi avec Pierre Cochereau. Je pense, est-ce que tu crois que tu pourras la mettre au répertoire? Ben, on la mettra. Oui, c'est le faux. Bon, on l'a regardé avec Pierre, on a vu qu'elle sonnait très bien. Ouais. Eh bien... on la met, et puis je dois dire qu'elle a eu beaucoup de succès.
Et vous l'avez d'ailleurs également enregistrée en disque.
Et on l'a enregistrée, et que, quand on l'a jouée à l'étranger, nous sommes allés en Autriche, en Espagne assez souvent, en Italie, en Allemagne, eh bien c'est une pièce qui avait un gros succès.
Roger Delmotte, on a évoqué vos multiples vies, la musique contemporaine, la musique légère, l'Opéra de Paris, le répertoire pour trompette et orgue, les rencontres multiples et le Conservatoire de Versailles où vous avez continué à enseigner également.
Pendant quelques années.
Pendant quelques années.
Oui.
C'était important pour vous l'enseignement ?
C'est très important. Je pense que si je fais le bilan, les joies que j'ai pu obtenir dans ma carrière d'interprète, les joies de participer à des spectacles exceptionnels d'opéra, et la communication humaine que j'ai eue avec mes élèves,
ouais.
Actuellement, il me reste la communication humaine. Parce que quand j'ai des élèves qui m'ont connu il y a 30 ans, 40 ans, certains ont des enfants qui font de la musique et qui savent ce que j'ai fait avec leur père. De ça. Et pour moi, il me reste une émotion de tout ce que j'ai eu avec mes élèves. J'ai appris par mes élèves en essayant de leur apprendre quelque chose. Et ça, cette phrase, ce n'est pas moi qui l'ai créée, mais apprendre pour apprendre, apprendre pour enseigner. Et ça, je le sais.
Quelqu'un aussi qu'on a à peine évoqué, mais qui est arrivé un peu après vous dans le métier, puis qui a pris une très grande place, je pense que c'était un de vos amis, c'est Maurice André.
Le premier enregistrement qu'il a fait, c'est moi qui lui ai demandé de venir avec moi, on a fait un Vivaldi.
Ah oui ?
Oui. Bon, il n'était pas connu du tout, mais je savais ce qu'il faisait. J'avais fait beaucoup de choses avec Sabariche, parce que c'est grâce à Sabariche que j'ai été un peu lancé pour tous les enregistrements de films que j'ai pu faire. Le premier que j'ai fait, c'était peut-être si Versailles m'était compté, avec Sacha Guitry.
Et la musique de Jean Français.
La musique de Jean Français. Et Sabariche n'était plus là, mais il avait fait encore des choses juste avant avec Marc Langean, qui dirigeait souvent. Il m'a dit, bon, maintenant j'en ai assez, tu pourras venir faire les enregistrements à ma place. Et Maurice André, donc, a fait ce premier enregistrement. Ce n'est pas ce qu'il a lancé, mais il a été tout de suite dans le coup. Et il a été sage pour lui, et intelligent surtout, de se présenter au concours de Munich. C'est moi qui lui ai conseillé d'aller se présenter là. Il a eu le premier prix à Munich, et là,
la carrière a
il
démarré.
Est parti comme une fusée.
Ouais, ouais.
Ah oui, je veux dire. Et il avait choisi, lui, le côté vedettariat public, tout cela. C'était la différence avec moi.
De carrière très différente. Oui.
Tout à fait différente. Bon, et je dois dire qu'il a fait une carrière époustouflante dans le monde entier. Maurice André représente l'école française. Je crois que nous pouvons être fiers, lui comme moi, de ce que nous avons fait pour la trompette.
Pour la trompette, absolument. Voilà. Alors d'ailleurs, comme vous dites, il a fait beaucoup de musique populaire, il a sans doute fait beaucoup plus que vous de la musique légère, mais la musique légère, vous en avez fait un peu vous-même aussi, on va peut-être finir avec ça aujourd'hui, parce qu'il va falloir que vous reveniez, et notamment avec Roger.
Ah oui, oui, je ne veux pas appeler ça une musique populaire, c'est une musique un peu plus légère, mais qui a tel charme.
Oui.
Le plaisir du travail avec Roger.
C'était quel genre de bonhomme, Roger?
Agréable.
Ah oui.
Tous les collègues dont je me souviens avec qui nous nous trouvions, eh ben, nous avions le plaisir en séance avec Roger. C'était très agréable. Et sa musique, très agréable.
Oui, c'est vrai. Alors, on a retrouvé une de ses pièces dans lesquelles vous jouez avec
l'orchestre de Roger. Parce qu'on en a tellement fait, on ne savait pas les titres.
Marche royale, je crois.
Très bien.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, cher Roger Delmotte. Je dis quand même, vous m'avez promis que ça ne vous gênait pas, que vous venez d'avoir 92 ans. Et c'est impressionnant de voir cette vitalité, ces souvenirs, cette bonne humeur que vous portez.
Il y a une chose que je tiens à garder, c'est ma passion.
Oui.
Et la passion que j'ai eue de mon métier.
Eh bien, elle est communicative et merci de nous l'avoir transmise aujourd'hui.
Merci, Benoît.
Marche royale par l'orchestre de Roger Roger, avec bien sûr à la trompette Roger Delmotte qui était ce matin mon invité. Et puis vous pouvez donc retrouver au moins une partie de sa discographie en allant voir sur le site de l'émission, cette émission que vous pouvez également podcaster.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis voici quelques jours après notre émission à Strasbourg, je suis allé dans les Vosges devant la magnifique forêt d'automne, tout près de ces vallées alsaciennes où l'on aime danser, chanter et parfois pousser la tyrolienne. Et justement, j'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres en rentrant à Paris ce disque qui vient de sortir chez Marianne Mélodie d'André Annie, le roi de la tyrolienne, qui interprète pour nous un chant vosgien.
Pâtre vosgien sous l'ombrage des grands sapins mystérieux, écoute le joli ramage des petits oiseaux radieux. Alors de son flûteau rustique, il accompagne de son mieux, tandis qu'au loin l'écho magique prête son concours gracieux. Dans les Vosges, lorsque la neige impose silence partout, au bercail rentrent en cortège les troupeaux clochettes au cou. Sous les sapins couverts de givre, bâton ferré, bien chaud manteau, je vais seul, ce charme m'enivre, et mon cœur chante à ce tableau. Ti, 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 ti,
Chant vosgien, c'était en décembre 1934, André Annie, le roi de la tyrolienne, c'est le nom de cet album qui vient donc de paraître chez Marianne Mélodie. Et puis tiens, restons un peu dans les couleurs de nos provinces, comme on disait hier, là on était tout à fait à l'est, on va maintenant tout à fait à l'ouest en Bretagne avec ce merveilleux ballet trop peu connu de Camille Saint-Saëns qui s'appelle Javotte et qui commence par une fête au village. Thank you. Javotte de Camille Saint-Saëns, encore un exemple de ce très beau répertoire de danse symphonique français qu'on joue trop peu aujourd'hui. Là, c'était un enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de David Robertson. Et puis, avant de nous quitter, eh bien, nous allons passer encore quelques minutes en compagnie de Maurice Yvain, car c'est la reprise par l'excellente compagnie des Frivolités parisiennes de son opérette Yes, à partir du 8 octobre au Théâtre de Saint-Dizier, ensuite à Paris, Compiègne et Saint-Quentin.
Parti pour l'Angleterre, en sachant seulement dire yes, tout simplement, à quel point j'étais téméraire. Ah, c'est fou ce que ce mot peut être, dangereux, sournois, perfide et traître. Ce petit oui étranger est si doux, si léger, qu'il paraît sans aucun danger. Il ne faut pas s'y fier, car on est stupéfié de voir tout ce qu'il peut signifier. C'est un mot tout petit, mais par lequel on dit qu'on a qui est. Yes! C'est un mot si gentil qui entraîne à toutes les gentillesses. Yes! Devant le registre, sans amour et sans peur, je m'amène à 3 heures. Et sachant que c'est pour rire que l'on va nous unir, je dis yes! 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 Au retour dans l'auto, votre main prend ma main, je la laisse. Yes! Grimpant sous mon manteau et voyant, je prends de l'hardiesse. Yes! Me posant tout à coup, un long baiser dans le cou. Vous me dites, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous va? Est-ce que je continue? Yes! À l'hôtel, on arrive. Mon émotion était des plus vives. Vous me dites, mon petit loup, le voilà bien chez nous. Restez sur le qui-vive. Puis vous dites, chère petite compagne, voulez-vous boire un doigt de champagne? J'ai la grande faiblesse, rien que par politesse, de répondre non encore yes. Car l'extra dry me mit sur les minuit et demi dans un charmant état d'esprit. Et blotti près de toi, tu me dis, prouve-moi ta tendresse. Yes. Un mari a le droit d'exiger, c'est la loi des caresses. Puis tu me fais tout bas, enlève dans tes mains, mais le reste tombant. Près de moi, viens dormir, croyant que c'était pour rire. J'ai dit yes, yes, yes. Puis tu me dis, veux-tu que j'éteigne la lumière dans la pièce? Yes. Comment n'est peu vêtu, chauffons-nous, viens chérie, que je te presse. Yes. Et serré dans tes bras, doucement tu murmuras, sois ma maîtresse, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te le prouver.
Yes, de Maurice Yvain, chanté par Julie Fuchs. Alors là, c'était la version orchestrale, mais je précise que les Frivolités parisiennes donnent la version originale pour deux pianos de cette opérette de 1928 créée par Arletty. Vraiment à ne pas rater. C'est du 8 octobre au 21 octobre à Saint-Dizier, Paris, Compiègne et Saint-Quentin. Et puis tiens, pour le plaisir, retrouvons Éliane Sélis dans une autre œuvre de Maurice Yvain qu'on a évoquée tout à l'heure avec Roger Delmotte, Au soleil du Mexique.
Viens me regretter, fais-moi l'amour.
Et pour bien finir, après le Morissivin planant de Soleil du Mexique en 1935, chanté par Eliane Célis, voici le Morissivin endiablé de Ô Papa en 1933, avec Jacqueline Francel et Louis Boucaud, qui font semblant d'être le père et sa fille.
J'ai retrouvé tout à coup,
elle a retrouvé tout à coup,
ça m'en fait trembler les genoux, tellement c'est fou, celui que j'avais perdu,
bien sûr elle l'avait perdu,
un hasard inattendu, soudain l'a rendu, ma bouche sourit en prononçant ce nom chéri,
ma bouche sourit en prononçant ce nom chéri,
je vous l'ai dit et je vous le redis, Maurice Yvain, c'est le compositeur à redécouvrir d'urgence. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée avec Annie Comier, aujourd'hui à la technique Stéphane Démon, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. J'aurai la grande joie d'accueillir Serge Rezvani. Bon week-end à tous sur France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.